choc.
Attends un peu, dans n'importe quelle situation.
Oui, je suis pas un gars qui, sur le coup, va bien réagir. Si on est en onde puis que je fais ma job, je me trouve pas pire. Mettons qu'il y a une nouvelle qui tombe ou n'importe quoi, mais je parle dans ma vie personnelle. Okay. Si quelqu'un veut m'adresser quelque chose, il y a un problème, j'ai un dégât d'eau. Il y a quelque chose qui marche pas comme c'est supposé marcher. Moi, je tombe en mode panique, en mode angoisse très rapidement.
C'est une difficulté de, t'sais, mettons, de la capacité de l'adaptation?
Ah, oh, c'est une problématique grave de santé mentale. Là, je dis. Si t'as vu le film Sans dessus dessous 2, là, angoisse après les commandes, puis elle les a jamais redonnées. Là. Oh,
c'est
oui.
Bon comme référence.
Non, mais puis c'est, on dirait que c'est encore plus choquant quand tu te reconnais dans les défauts dans tes enfants.
Ouais. Puis il y en a toujours un des deux qui te ressemble un peu plus.
Oui, hein? Oui. Moi, c'est le grand. Le grand me ressemble beaucoup. Il est introverti. Il a une tête de cochon. il a une bonne capacité. Mais il n'est pas fort, ses efforts. Je me reconnais beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Quand c'est notre miroir, on dirait que c'est toujours pire. Il faut se parler. Là.
Oui, oui, parce que tu te dis, tu veux que tes enfants performent mieux que toi, que tu veux que tes enfants aillent plus loin que toi, tu veux que tes enfants soient meilleurs que toi dans une certaine mesure. Fait quand tu vois les mêmes défauts, tu te dis, ben tabarnouche, moi, ça me force à travailler sur moi parce qu'ils me regardent, puis c'est là qu'ils prennent les réflexes, puis ainsi de suite. Fait que je suis obligé d'essayer de devenir mieux. Parce que je veux qu'eux autres comprennent plus vite ce que moi, ce qui m'a pris peut-être des décennies à comprendre.
Je suis contente que tu aies des enfants, parce que j'ai l'impression que c'est la seule chose qui t'a poussé à te revoir.
Ben, la réalité,
ben, on a pas
c'est
le choix.
Mais c'est ça.
Sans aucun filtre, je te le dis, j'ai pas travaillé beaucoup sur moi-même avant d'avoir des enfants. Ouais. Exact. Ouais. Mm.
C'est un passage obligé quand tu deviens père ou mère, je pense. T'as pas le choix de travailler sur toi. Puis des fois, il faut que tu aies une certaine retenue que tu n'avais pas avant d'avoir des enfants.
À tous les niveaux.
Tu sais, quand t'es tabout, puis tes enfants écoutent pas, puis là, tu sais plus quoi faire, t'as plus de ressources, t'es en train de paniquer, juste d'ouvrir la porte, t'asseoir sur le perron.
Oui.
Parce que sinon, c'est sûr, tu vas faire lever le plafond en criant. Hein. Tu veux pas faire ça.
Ça m'est arrivé une couple de fois d'aller m'asseoir dehors.
T'as pas le choix.
Tu vas prendre l'air. Faut que t'ailles ventiler. Il y a des situations où le stress monte très rapidement, puis... c'est ça, t'as parfois l'impression d'être dans le milieu d'un océan, puis tu vois pas nécessairement où est-ce que tu t'en vas. Ça peut être stressant. Je pense beaucoup aux mères monoparentales, tu sais, qui sont dans des appartements, qui ont de la misère à arriver, qui ont pas d'aide, pas en tout. Moi,
plus le stress financier, plus le stress d'éduquer tes enfants, plus le stress d'arriver à l'heure pour aller chercher à la garderie ou à l'école.
J'ai fait partie des chanceux. J'ai eu de l'aide. J'ai eu de l'aide de ma famille, j'ai eu de l'aide. Mes parents se sont méga investis pendant 7-8 ans. T'sais. Si je les avais pas eus, je sais pas ce que j'aurais fait. Je les avais, puis il y a des bouts où je chantais que j'en avais par-dessus la tête. T'sais. C'est pas... Il y a beaucoup de beaux moments, il y a beaucoup de choses très gratifiantes, mais c'est pas vrai que c'est facile. Ouais. Être parent, c'est pas facile.
Puis c'est weird, hein, parce que tu me racontes des affaires, puis moi, j'ai pas vécu la même chose que toi. La fin de semaine, j'étais monoparental, mais la semaine, ils étaient avec leur mère, puis j'avais une belle relation, moi, avec leur mère, où on se parle à tous les jours et tout ça. Mais il y a des moments où tu te considères comme désarmé, puis tu sais juste plus quoi faire.
Ouais.
Fait que c'est là où tu te dis, OK, la prochaine fois que ça arrive, c'est ça que je vais faire, parce que là, j'ai vraiment eu une mauvaise réaction. Mais tu penses pas à ça quand t'as pas d'enfants.
C'est drôle, hein, parce que je pensais avoir réglé un problème avec mon grand qui laisse traîner son linge. Puis il cachait tout le temps dans l'entrouverture de sa porte de chambre. Fait que comme ça, quand je vais lui dire bonne nuit le soir, je le vois pas, il est en tapon, là.
Oh, il y avait pas.
Puis là, c'est les bobettes qui sont là.
Ouais. Fait que là, j'ai dit, je sais que ton linge est en tapon, là. Grand, ramasse-les, s'il te plaît, ramasse ton linge. Ça. Puis là, je suis monté dans la chambre à matin, j'ai ouvert la porte, j'ai dit « Ah, oh, nice, il a ramassé son linge. » J'ai pris la couverture du lit, j'ai regardé en dessous de l'oreiller. « Ah, oh, tabarnak! » Il y avait une pile avec son linge d'école, ses bobettes de la veille. J'ai dit « Ah,
non! » Dans le lit, son linge sale de petit bébé qui joue partout.
Ça doit être plus d'ouvrage de trouver une cachette pour son linge que de le mettre au lavage ou juste de le plier puis de le remettre dans le garde-robe.
Mais pourquoi ça vous a pris enfant? Parce que j'ai l'impression... Tu sais, nous, entre filles, on s'en jase presque à tous les jours de « Hey, l'introspection qu'on a faite sur nous-mêmes, mais on a-tu bien réagi? » On est comme plus dans la facilité de dire hey, « excuse-moi, je t'ai peut-être brusqué là-dessus. » Puis c'est drôle parce qu'on a eu plein d'événements, même tantôt avant de rentrer en show. Puis Audrey et moi, on est un peu pareil sur ce genre de choses-là. Tu sais, on est tellement d'introspection, des fois, on l'est bien trop. Là. Mais pourquoi vous, c'est une affaire de gars, vous pensez-vous que c'est genré? Puis personnellement, pourquoi ça vous a pris des enfants pour être capable d'aller vous creuser dans les émotions?
Marceau, je sais pas. Marceau, tu as été en couple tellement longtemps, on n'est pas nécessairement dans la même situation là-dessus. Moi, j'étais complètement intransigeant puis complètement égoïste. J'avais très peu d'empathie et de compréhension envers ce que les autres vivaient autour de moi. J'étais dans ma petite réalité, dans ma petite bulle, puis quand ça faisait pas, je reculais le char puis j'allais ailleurs. Tu sais, j'avais pas beaucoup de d'attachement ou de suivi. Je me disais...
C'était une protection?
Probablement. Tu sais, j'avais raison, je savais ce que je faisais, puis ainsi de suite. Puis à un moment donné, ben c'est ça, t'as un enfant qui tombe malade, ton couple chie, puis il y a plein d'affaires qui arrivent qui te font reconsidérer beaucoup de choses. Puis tu commences à travailler sur toi-même, parce que moi je veux pas me ramasser tout seul à 82 ans. Je veux vivre en couple, ça fait partie de mes objectifs. La vie de famille, ça faisait partie de mes objectifs. C'est un objectif qui traînait d'une poubelle. Puis je me disais, ben ça, moi, c'est fini. Tu sais, j'aurais pas cette opportunité-là dans ma vie parce que j'ai pas appris à faire de la place à quelqu'un dans ma vie.
Mais là, au moins, le camion n'est pas passé avec la poubelle.
Mais les enfants te forcent à faire de la place. T'apprennent à faire de la place. Moi, j'ai dû apprendre avec mes enfants pour après ça apprendre à faire de la place dans un couple. C'est que je l'ai comme vécu. Je vis toutes mes affaires à l'envers.
En même temps, c'est ça, il était prêt. Mais est-ce que... Puis peut-être ma dernière question qui va aller creuser un petit peu plus loin. Tu réponds si tu veux. Mais dans cette protection-là, que tu n'es pas sûr, mais peut-être, dans ton intransigeance, là, est-ce que tu étais convaincu de l'être ou c'était plus une position qui était sécuritaire pour toi?
J'étais très autodestructeur dans mes relations. Ça allait chier de toute façon. Fait que dès que j'avais une opportunité de chicane ou n'importe quoi, ben, je me disais, bon, ben, c'est le temps de laisser tomber, c'est le temps d'aller butiner ailleurs ou whatever. Là, ouais. J'étais très... C'était sûr que ça ne marcherait pas de toute façon. Je ne suis pas assez un bon gars pour que ça marche. Je ne m'aime pas assez pour que ça marche. C'est ça, quelques années de thérapie là-dessus.
Moi, je l'ai vécu à l'envers. C'est-à-dire que moi, j'avais 50% du travail à faire avec les enfants, puis j'étais avec la mère de mes gars. Fait qu'elle avait son 50%. Quand je suis tombé célibataire, puis là, j'avais les gars 4 jours en ligne, je me suis aperçu de l'autre partie. Elle faisait que je me rendais pas
compte. Que tu te rendais pas compte, ouais.
Fait que tu sais, des fois, là, c'était un gros coup, là. T'sais, moi, j'ai toujours le temps eu juste moi à m'occuper dans la vie très jeune, mais j'ai juste eu moi à m'occuper. Puis là, ben, tu te ramasses avec deux êtres humains qui n'ont pas demandé à venir au monde. C'est toi, l'égoïste qui voulait avoir des enfants. Puis là, tu te dis, OK, là, ma fin de semaine, c'est 4 jours en ligne où je vais être avec eux. Puis je me rendais pas compte de l'autre portion qu'elle faisait que je voyais pas.
Hey, c'est intéressant. Fait que
c'est de réapprendre après. Moi, j'étais avec la mère de mes enfants 16 ans. Mm-hmm. Mes enfants, quand on s'est séparés, il y avait Josh, il y avait 7 ans. Ouais, 7 ans. Fait que c'était de réapprendre à vivre seul, mais là, avec deux petits êtres humains.
T'as-tu eu des regrets de t'avoir rendu compte de ça après?
Tu en as-tu reparlé? T'es en bonne relation avec? Tu dis, je me suis rendu compte d'affaires que tu faisais.
Puis tu sais, j'y dis encore à tous les jours, t'es la personne la plus formidable pour ces enfants-là.
C'est vrai que tu nous en parles à nous aussi hors d'onde.
Incroyable. Oui, mais tu sais, je mens pas là-dessus. Je veux dire, c'est une personne incroyable. Tu sais, je suis très heureux d'avoir eu des enfants avec cette femme-là parce qu'elle est bonne avec mes enfants, elle est bonne avec son ex, qui est moi, tu sais, être hyper patiente. Quand elle part 4-5 jours pour aller à Montréal ou à Ottawa pour faire ses contrats, ben je retourne dans la maison où moi j'habitais, puis je vis avec mes gars pour que les gars puissent être dans leur environnement puis aller à l'école le lendemain.
C'est tellement sain. Sain pour vous autres, sain pour les enfants.
Tu sais, j'ai été le gars le plus chanceux de la Terre, mais j'ai dû l'apprendre. Du moment où j'étais célibataire, là, j'ai dû l'apprendre à l'envers de Denis. Lui, il l'a appris très vite. Mm-hmm. Moi, ça a pris comme plus tard. OK, c'est ça.
Ça t'est venu au visage.
Puis il n'y a pas de mauvaise façon. Moi, c'est ça que je trouve le fun. Puis avant, je ne m'intéressais pas beaucoup au parcours des autres. Puis quand on échange sur des affaires de même, je trouve ça révélateur. Tu sais, des fois, je sais qu'on est payé pour parler de l'actualité entre midi puis midi et demi. Je trouve ça foutrement plus intéressant
que n'importe
quelle nouvelle. Bon, bien, 4 minutes,
voulez-vous qu'on arrête?
Non,
ça va être des noms.
Tu sais, des fois, dans l'actualité, on pense qu'il n'y a rien qu'une solution. Tu sais, le budget, faut régler ça de même. Mais dans nos vies, c'est pas ça.
Non.
Puis tu sais, on demande à des politiciens de prendre des décisions pour toute la société alors qu'on a toute une solution qui nous appartient, qui est pas... Tu sais, moi, j'ai un scénario de vie qui, présentement, me rend très heureux, me gratifie beaucoup. Pas certain que tu serais autant heureux que moi dans la situation où je suis. Puis l'inverse, c'est probablement vrai. Ça veut pas dire que j'ai raison, ça veut pas dire que t'as tort.
Faut être convaincu de ne pas être convaincu.
Ouais, c'est deux parcours. Il y a plein de parcours de vie différents, sont tous fascinants. Il y a plein de choses à apprendre là-dedans. Puis dans l'actualité, on est très unidirectionnel, alors qu'on devrait peut-être étendre des fois notre champ d'horizon, parce que quand on échange, on se rend compte qu'on n'a pas tous le même vécu, on n'a pas tous le même bagage, on n'a pas toutes les mêmes références sociales. Il y a plein de choses qui nous forment, Mais de voir qu'on avance chacun à notre façon, je trouve ça encourageant. Ce qui est important, c'est d'avancer en tant que société, en tant qu'individu. On espère, en
tout cas. Quand tu dis « j'ai jamais été aussi heureux qu'en ce moment
ouais. »,
ça a quand même pris un moment.
Ah, puis c'est pas grave, fait... j'ai pas le bonheur facile. Là. J'angoisse aux deux jours, là, c'est pas parfait.
Il y a des
là,
fins fonds, c'est correct. Ça fait partie de ta personnalité. Mm. Puis les gens qui t'aiment vont t'aimer avec les défauts, puis même vont les apprécier puis en rire.
C'est
t'sais.
Peut-être plus de l'endurance que de l'amour, mais j'apprécie les
mais
deux.
Mais t'es forge ouais. aussi. Mais il a fallu quand même que tu passes par-dessus tes propres convictions
oui.
et ton assurance pour être plus heureux.
Absolument.
Fait que t'as fait confiance en un processus.
Oui.
Puis ce processus-là t'a amené à être encore plus heureux que t'étais convaincu de l'être en étant d'une certaine manière. Qui était,
ben, cas... si t'es pas heureux, il y a des choses qu'il faut que change. Puis souvent, les choses qu'il faut que change, il faut que ça parte de toi.
Mm-hmm.
Puis il faut que tu mm-hmm. le fasses pour toi aussi. Moi, c'est une phrase que j'ai beaucoup entendue au début, puis que je croyais pas vraiment. T'sais, pourquoi je le ferais pour moi? Je veux le faire pour les autres. T'sais. Je veux le faire pour ma blonde, pas qu'elle s'en aille. Mm. Je veux le faire pour mes enfants, pour qu'il y ait un bon père.
Faut que tu le sois toi en premier pour,
ouais,
pour le faire.
C'est, mais c'est dur à gober pour quelqu'un qui s'est toujours considéré comme un égoïste. De dire, faut que tu le fasses par égoïsme. Ben, dis, ben non, c'est ça, je viens casser ici, là, à 150$ de l'heure, là.
Dis-moi 150!
C'est un exemple, là, mais. Non, c'est 150.
Puis moi, ça me fait rire parce que je vous côtoie, puis, tu sais, j'analyse une couple d'affaires qui sont fausses, qui sont vraies, on s'en fout, mais, tu sais, ça reste que quand tu te mets à voir des gens régulièrement, puis Yannick et moi, on se voit plus que notre propre famille, il l'a dit dernièrement. Puis c'est vrai, pareil, même chose, toi, avec les filles, puis. Mais il y a des choses pour lesquelles vous êtes quand même assez discret, puis. L'introspection, au moment où c'est entré dans votre vie, moi, ça me fait rire parce que regarde ce qui s'est passé aussi en termes de personnalité. T'as jamais répondu, Yannick?
De?
Je le connais assez
mais
pour savoir
plus,
que
Yannick
discret.
Est, Yannick là-dessus. Est méga protecteur, ouais. Puis je respecte ça.
Absolument,
c'est bien
mais j'ai, ça me fait rire.
J'ai eu une discussion avec mon plus vieux parce qu'il me demandait c'était qui, moi, mes modèles au hockey. Il y a de ça quelques jours. Puis, je savais pas qu'il allait avoir un article sur cet individu-là que je vais vous parler dans quelques secondes. Mais
capitaine.
Moi, mon modèle au hockey, quand j'étais jeune, c'était Tony Twist, tu sais. Puis Owen Nolan, c'était des joueurs de hockey des Nordiques de Québec. C'était des joueurs qui, à mes yeux, à moi, c'était les meilleurs joueurs de hockey au monde. Puis à plus grande échelle, il y avait peut-être Mario Lemieux, que je trouvais grandement impressionnant. Mm. Et en plus, il parlait français, fait que j'avais comme un peu plus d'affinité avec Mario Lemieux qui venait du Québec et tout ça. Puis dans les derniers jours, mon fils me posait une question, c'était qui tes modèles? Puis je dis, ben si toi, t'en as un à avoir, un modèle. Là. Tu l'as vu évoluer pendant quelques années. Même si je déteste les Bruins de Boston, c'est Monsieur Hockey, c'est Patrice Bergeron.
Tu peux pas haïr Patrice.
C'est un gars qui vient de chez nous. C'est un gars qui a toujours été fidèle à son équipe, du début jusqu'à la fin. C'était pas le meilleur marqueur de la Ligue nationale, mais c'était le gars qui était capable de bien faire à l'offensive puis en défensive. En fait, c'était un des meilleurs joueurs défensifs au monde. Là.
Oui.
Le gars n'a jamais fait de scandale.
Non.
Il a tout le temps donné le meilleur de soi-même pour son club. Puis encore aujourd'hui, tu sais, il me dit, c'est pas aux gens de me remercier, c'est à moi de remercier les gens de Québec d'avoir été toujours derrière moi. Oui. Puis mon gars a dit, c'est vrai que Patrice Bergeron, il a tout le temps été un bon gars.
Puis il a réussi à le faire dans un environnement où mettre la marde est un mode de vie. L'environnement des de Boston.
Oui.
Je veux dire, c'est quand même tout un tour de force. Là.
C'est il aurait pu crasher aussi.
C'est peut-être un peu poussé parce qu'il n'y avait pas les mêmes skills, là, mais parce que Jean Béliveau, on l'appelait Monsieur Hockey.
Ouais.
Est-ce qu'on pourrait appeler Patrice Bergeron Monsieur Hockey aujourd'hui?
Il y a beaucoup de gens qui font le parallèle. C'est tellement dur de comparer les époques, mais dans le genre de modèle de hockeyeur et d'humain, Jean Béliveau, Patrice Bergeron, moi j'ai entendu le parallèle à quelques reprises quand Patrice Bergeron a annoncé sa retraite. Jean Béliveau, moi, je l'ai rencontré une fois dans ma vie, puis c'est une poignée de main que je me souviens encore. Tu sais, c'est un monsieur qui imprègne quand il est présent à quelque part. Tu t'en souviens, c'est marquant, tu sens. Ça, c'est pas un joueur de hockey, ça. C'est un monsieur.
Les gens lui avaient demandé à Jean Béliveau lors d'une entrevue pourquoi il signait son nom complet.
Mm-hmm.
Puis il avait dit ben parce que la plupart des gens mettent des barbeaux.
Ouais.
Moi, j'écris mon nom pour être sûr que les gens sachent que c'est moi qui ai bel et bien écrit mon nom.
C'est une question de respect pour lui, en fait.
J'ai un chandail de la Nordique Nation qui est signé par Jean Béliveau.
C'est vrai?
Dans le Salon des Anciens au Centre Bell.
Ah, ouais.
Ouais. À l'époque où on faisait la Nordique Nation, il y avait eu un match au Centre Bell. On avait fait de la radio. Je pense que c'était. Comment ça s'appelle, les trois, le resto-bar, pub, café-terrasse, bar-spectacle, il y en a un sur Grande Allée, là.
Trois Brasseurs?
Oui. Okay. À Montréal.
Merci.
On avait fait de la radio aux Trois Brasseurs à Montréal dans le courant de la journée. On est allé voir le match du Canadien en soirée et la fin de soirée est floue. Mais on s'est ramassé.
Surprends-moi.
Je ne sais pas comment, mais on s'est ramassé dans le Salon des Anciens.
Ouais.
Le Salon des Anciens, c'est à quelque part dans le Centre Bell. Encore une fois, c'est flou. Mais c'est un endroit où, quand tu as joué pour le Canadien de Montréal, ben, tu peux te présenter là. Il y a un service de bar, puis tout ça. C'est bar ouvert, en fait. Là. Puis tu t'installes, puis tu regardes la game. Puis tu as des vieux routiers qui étaient là. Puis nous autres, on arrive là avec nos chandails des Nordiques. Ce qui n'était pas super brillant à la base.
Mais okay? Très divertissant.
Mais on réussit à rentrer là. Et là, c'est... mon Dieu Seigneur, c'est qui... Il y en a un qui n'acceptait pas notre présence. C'est-tu Gilbert Delorme? Je pense que oui. En tout cas, il y en a un qui voulait nous sortir.
Il était un peu hostile.
Il était un petit peu hostile, exactement. Puis Jean Béliveau est arrivé. Et quand Jean Béliveau arrive, t'écoutes. Et Jean Béliveau est arrivé, il dit « Hey, bonjour messieurs, bienvenue au Salon des Anciens. » Nous serre la main, nous pose des questions. « Qu'est-ce que vous faites là avec des chandails des Nordiques? » Puis là, on raconte la Nordique Nation pour ramener les Nordiques. Puis on est allé faire le tour des arénas. Puis on aime échanger avec des amateurs de hockey puis tout ça. Il dit « Hey, c'est super. » Puis là, il commence à poser des questions. Puis pendant ce temps-là, ben, l'autre à côté s'est calmé pas mal, tu comprendras. ça crée un moment incroyable. Puis c'est là que tu vois, tu sais, quand M. Béliveau arrive... t'es aussi bien d'écouter et t'es aussi bien de te calmer. Là, ce genre de leadership-là et de présence-là, je pense que tu nais avec ça. Je pense pas que tu puisses développer ça beaucoup. Lui, il l'avait. Là.
Patrice Bergeron n'a jamais demandé à être ce qu'il représentait pour les Bruins de Boston. Puis là, c'est jeudi, on va lui rendre hommage.
Ouais.
Puis au départ, il était pas certain d'accepter d'avoir un hommage. C'est particulier. Hein? Il dit « Moi, j'ai apprécié énormément le soutien de la population de Québec, mais la réalité, c'est que c'est moi qui devrais dire merci aux gens de Québec. »
Ça fit.
Bien plus que le contraire.
Ça fit. Ça fit.
Du début jusqu'à la fin, ce gars-là va avoir été un modèle.
Ouais.
J'espère juste qu'un jour, on redécouvrira un autre Patrice Bergeron, un autre Jean Béliveau qui évoluera, que ce soit pour les Canadiens de Montréal ou encore pour les Bruins de Boston.
Ça en prend encore, ça en prend encore. Puis sans encore une fois se risquer dans des parallèles, t'sais, tu vois les jeunes talents du Canadien de Montréal sont pas gênants à regarder, là. Sont pas gênants à voir des entrevues, des présentations. Je sais pas si tu as commencé la série de télé-réalité sur Crave, où on les voit évoluer un petit peu plus, là, les joueurs du Canadien, la jeune garde. Moi, je trouve ça le fun. Je trouve que de voir mon enfant, de voir mes enfants, parce que j'en ai un qui prend pour les Bruins puis un qui prend pour les Canadiens, évidemment. Prendre pour les Canadiens, chez nous, j'appelle ça une crise d'adolescence.
Sont plus vieux, les Bruins? Ou...
Non, mon plus jeune trip, okay. C'est les Bruins. Mon plus grand trip sur le Canadien. Puis, tu sais, il trip sur Suzuki, sur Caulfield. Puis, je trouve que c'est des Christie de beaux modèles.
Oui.
Puis, je le trouve chanceux parce que c'est pas toutes les générations qui ont eu ce genre de modèle-là, particulièrement à Montréal. T'sais, nous autres, évidemment, on a grandi dans le contexte qu'on avait deux équipes au Québec. Eux autres, ils en ont une. Puis, c'est le Canadien. Je trouve ça le fun de voir que la jeune relève a de l'air impliquée dans le club, puis ont de l'air d'être des passionnés. On verra. Je trouve que Suzuki est surprenant comme capitaine. Est-ce que c'est ce gars-là qui va être capitaine pendant 8, 10, 12 ans et qui va prendre sa retraite avec le Canadien? C'est les plus beaux exemples. Je pense que tu vas être d'accord avec moi là-dessus dans la Ligue nationale. Les joueurs fidèles, les joueurs qui commencent dans un uniforme, qui finissent dans le même uniforme, je trouve ça extraordinaire.
Il y en a un, puis je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, parce que son début de carrière n'a pas été facile en raison des niaiseries qu'il a faites, mais Logan Mailloux semble vouloir faire sa carrière au grand complet chez le Canadien de Montréal. Il a déjà appris le français, capable d'avoir des entrevues avec les journalistes sans aucun problème. Il semble être très sympathique. À ce qu'on me dit, les jeunes qu'il côtoie, il refuse jamais un autographe. Il est tout le temps droit. T'sais, c'est comme l'opposé de Markov. C'était Markov?
André Markov.
Ouais. André Markov était très froid avec les gens.
Alors, parce que justement, il sent qu'il y a une deuxième chance.
C'est ça que je me pose comme question.
Il y a un devoir de loyauté en s'investissant comme
mais
ça.
Mais peut-être dans 15 ans, on pourra dire que ce gars-là, avec son arrivée dans la Ligue nationale, pas avant, aura été un modèle pour les jeunes d'intégration, du moins pour le Canadien. Alors, il semble extrêmement sympathique puis il est très à l'écoute de ses partenaires.
Je crois aux deuxièmes chances quand tu dégages l'impression que tu es conscient que tu as une deuxième chance. Je ne sais pas si c'est bien expliqué. Il y en a beaucoup qui demandent une deuxième chance là, dans le public et j'imagine que je sais un peu où est-ce qu'on s'en va. Là.
Dans l'actualité d'aujourd'hui?
Oui, mais il y a des façons de faire.
Fais-tu ma boisson?
Non, ça va. Quand tu as l'impression...
Elle goûte un petit quelque chose.
Lucifer.
Il y a un petit quelque chose.
Tu m'as fait grainer des verres. Oui, c'est ça. Quand tu as l'impression que ça vient du cœur, puis ça, ben, tout le monde peut juger, là, j'imagine. Moi, ça me touche plus que... Quand tu engages une firme de relations publiques pour écrire des communiqués à ta place pour dire que tu regrettes d'avoir fait certaines choses. Puis je pense que les gens ont le droit de juger et de décider qui mérite une deuxième chance et qui n'en mérite pas. Puis ça nous appartient à chacun, tu sais. Il y a des gens qui trouvent qu'Éric Lapointe, là, a de l'air d'aller mieux. Puis je trouve qu'il a de l'air d'aller mieux, moi aussi. Là, après un an de sobriété... je veux dire, on est capable de comprendre ce qu'il dit, premièrement. Il revient de loin, là. Tu vois qu'il a perdu du poids, tu vois qu'il est plus en forme. C'est à partir de ce moment-là, il y a des gens qui disent, ben, all-in, Ticuir a droit à une deuxième chance. Correct, allez-y, puis tripez, puis je veux dire, on a le droit de rebondir. Là. Puis Logan Mailloux, s'il a pris sa débarque jeune et qu'après ça, il devient un exemple parce qu'il a pris conscience de certaines choses à la dure, tant mieux pour lui, tant mieux pour nous autres.
Effectivement. Hey, j'ai tombé sur un article hier dans le Journal de Québec sous la plume de Sarah-Jeanne Tremblay. Puis on parlait de la ville de Québec et je trouve ça intéressant puisqu'on a eu des statistiques pour ce qui est des aînés qui seraient, selon la ville, surreprésentés dans les collisions par rapport à leur poids démographique. On nous dit que c'est à peu près 15 personnes de 65 ans et plus qui sont malheureusement décédées sur les routes entre 2019 et 2023 et ça représente 3 décès sur 5, tandis que les aînés ne représentent qu'une seule personne sur 5. Je trouve ça intéressant, cette statistique-là. Le problème, c'est qu'on n'a pas l'information à savoir si c'est des gens qui se sont fait frapper.
T'es à la même place que moi.
Ou si c'est des gens qui se sont blessés dans des accidents de voiture dont ils sont responsables.
Je voulais... je cherchais ce détail-là. On cherchait la même chose. Sont-ils des piétons? Sont-ils des cyclistes? Sont-ils des victimes? Sont-ils des responsables? Sont au volant de quoi? Moi, ça, c'est le nerf de la guerre, dans le sens où, si tu veux réduire le nombre d'accidents chez les aînés, il faut savoir c'est dans quelles circonstances que ces accidents-là arrivent.
Est-ce qu'on a pèsé sur l'accélérateur au lieu de pèser sur le frein?
Comme c'est arrivé ici en bas.
Ouais, ben est-ce que c'est une collision avec une autre voiture? Au-delà de piétons puis conducteurs, j'aimerais ça savoir plus.
Donc, on nous donne des statistiques inquiétantes pour les aînés de 65 ans et plus, mais on ne nous dit pas s'ils étaient des piétons ou des automobilistes.
Regarde, je vais te donner un exemple. Mettons que c'est des piétons. Puis mettons qu'on constate qu'autour de zones où il y a des CHSLD, il y a des zones accidentogènes. Bien, est-ce qu'on transforme ces zones-là comme on a transformé les zones scolaires pour faire ralentir à 30 km/h de jour? Tu sais, je donne un exemple. Je ne dis pas que c'est une solution, là, mais à partir du moment où tu sais que c'est des piétons puis que tu sais que c'est dans certains secteurs, tu vois, tu peux arriver avec une piste de solution. L'autre enjeu, un petit peu plus tordu, on en a déjà parlé ensemble, je crois, Yann, les gens qui gardent leur permis longtemps et qui n'ont plus les capacités de conduire, comment on peut faire en sorte qu'on est capable de retrouver ces gens-là, puis peut-être de trouver d'une façon ou d'une autre un genre de compromis, peut-être, pour faire en sorte que ces gens-là soient moins dangereux sans nécessairement retirer tous leurs droits puis tous leurs permis. Est-ce que ça te force à conduire de jour, mettons, entre quelle heure et quelle heure? Je sais pas, là, je dis n'importe quoi. Mais là, c'est parce qu'on nous dit qu'il y a des pertes de vie, il y en a plus qu'il devrait y en avoir, mais on connaît pas les circonstances. Il nous manque des détails importants pour réfléchir comme faut à des solutions, je pense.
Puis je pense que Pascal a fait quelques courriels et quelques téléphones, puis c'est un avis de non-recevoir. Il n'y a pas d'informations à savoir
c'est
si
weird.
C'est des gens qui étaient piétons. C'est des... Ben, c'est pas weird. En fait, c'est l'administration Marchand qui semble être comme ça. On nous dit que la ville veut améliorer le bilan routier. Moi, je trouve ça franchement intéressant. Des aînés dans son nouveau plan stratégique de sécurité routière. Fait que je me suis dit, est-ce qu'on va tenter de faire du lobbyisme auprès du gouvernement provincial pour dire, ben à partir de 75 ans, ce serait intéressant que la personne, à chaque année, puisse aller à la SAC pour qu'on vérifie ses réflexes, à savoir si elle se souvient des panneaux, indicateurs et
tout ça. Un bon exemple.
Mais là, c'est pas ça. On n'a pas d'information à savoir si ces gens-là étaient des piétons, les gens qui sont décédés malheureusement, ou encore si c'est des gens qui conduisaient les véhicules. Mais ce qu'on nous donne, c'est qu'il va y avoir 20 nouveaux feux piétons. Il va y avoir aussi des prolongations de durée des traverses pour piétons à 70 intersections à Québec. On nous dit que ce sera les intersections les plus fréquentées par les automobilistes et par les personnes âgées. Puis il va y avoir de l'aménagement de territoire. Je trouve ça particulier qu'on se serve d'une statistique qui est imprécise pour passer comme nos choses qu'on veut faire passer, c'est-à-dire enfantianiser la vie des automobilistes à Québec.
En fait, si on ne nous donne pas les détails, puis on a eu exactement le même réflexe, puis on ne s'est pas parlé avant d'ouvrir les micros, c'est que le narratif n'est pas bon. Vraisemblablement, le narratif, dans les détails sur les circonstances de l'accident, ben c'est pas relié à ce qu'on propose aujourd'hui. Puis je dis pas que c'est des mauvaises initiatives pour autant. C'est juste que si t'es pas capable de faire le lien, ben t'enlèves les informations. C'est une drôle de façon de procéder.
Puis le hic, on a déjà vu ça dans d'autres dossiers. Moi, je pense au photoradar sur Dufresne-Montmorency après l'accident du chauffeur, là.
Ben oui.
Là, on disait que c'était un endroit accidentogène. On peut-tu avoir plus d'informations sur le nombre d'accidents qui étaient là?
C'est ça.
On peut-tu savoir s'il y en avait tant que ça?
Mais on a mis un radar. On a mis un radar qui n'a rien changé à la vitesse des gens parce que c'était une autoroute.
YMCA, là, au complet, c'était in life tellement ça clignote.
C'est le radar. C'était, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais c'était le radar le plus payant au Québec.
Il avait dépassé, et ça, je ne pensais pas ça possible, il avait dépassé celui sur Charest.
Ouais, fait qu'ils ne l'enlèveront pas.
Non, je pense pas. Ils rapportent, bien. La machine paye, comme on dit.
Je regardais leur stratégie à la Ville de Québec pour ce qui est de la sécurité routière. De 2020 à 2024, leur stratégie, c'est d'avoir un objectif d'atteindre zéro accident mortel ou grave sur son territoire.
Pourquoi on travaille tout le temps avec la politique zéro?
Ben, c'est parce que ça arrivera jamais.
C'est parce que c'est ça, c'est des lubies. Là,
j'aurais évité ce phrase-là, moi après le flop de zéro itinérance. Là.
Ben, sauf que si tu dis que ton objectif, c'est zéro accident mortel, tu peux faire encore plus de feux piétons. Tu peux faire encore plus de feux piétons prolongés. Fait qu'au lieu du 30 secondes, ça va être un 60 secondes.
Mais ça démontre à quel point tu es déconnecté.
Encore plus de trafic.
Les gars, je vais vous dire, je démontrerai zéro impatience dans la suite de ma vie. T'sais, vous allez faire Pascal. c'est pas très.
Pascal, t'es Pascal.
C'est ça. Sois conscient.
Mais je pensais pas qu'on allait boucler la boucle parce qu'on a parlé de plein d'affaires. Mais tu sais, juste dire, hey, on va essayer de faire mieux. Pas placer la barre nécessairement, mais quand on va se reparler l'année prochaine, on va en avoir moins. On va essayer de faire un petit peu mieux à chaque année. Puis quand on va avoir une pente qui va nous montrer qu'à chaque année, on fait un petit peu mieux, bien on va pouvoir cibler « Ah, ça, ça marche, vois-tu? Ce qu'on a fait là, ça marche. » Ou « Ce qu'on a fait là, ça marche pas. On va essayer d'autres choses. » Tu sais, au lieu de se lancer dans des objectifs irréalisables, là, comme enlever les voitures à pétrole en 2032, mettons. tu sais, juste dire « Hey, on va continuer la tendance qu'on veut initier. » Puis on va voir les choses qui marchent, les choses qui marchent pas. On va s'ajuster, mais on va garder cet objectif-là. Au lieu de bourrer le monde.
Donnez-nous des statistiques précises.
Oui, ben oui.
Les gens qui sont malheureusement décédés, c'est du monde qui sont fait fesser ou bien c'est du monde qui ont fessé du monde?
Pour mieux réfléchir à la suite et aux solutions, c'est des détails importants qui manquent dans ces chiffres-là.
Hey, on termine avec ça, mon ami. On va rire un peu, mais je te ramène au bye-bye 2020, OK? On présentait...
C'est la clip préférée aujourd'hui.
Seigneur.
On présentait une limonade. La limonade Kevin Parent. OK, je te laisse entendre le sketch, puis on en jase après.
Ouais, moi aussi, t'as-tu de l'alcool?
Non, j'ai mieux que ça. J'ai de la limonade Kevin Parent.
Kevin Parent fait de la limonade?
Et attends, tu vas voir, elle a un petit quelque chose.
Ouais, c'est vrai qu'elle a un petit quelque chose.
Ouais, elle goûte un petit quelque chose, hein? Oui, elle a un petit quelque chose. Kevin Parent?
C'est ça. Ça fait plaisir. Comment dire, je veux toujours m'assurer de la satisfaction de mes clients.
C'est quoi ton secret?
Le secret de ma limonade, c'est que je prends mon râpe à fromage, puis je mets du petit zeste de citron.
Oh, c'est le fun! En plus, le zeste de citron, ça a des propriétés antioxydantes.
Après ça, je me sors la graine, puis je la trempe dedans.
Mais voyons donc.
J'appelle ça
tu vas rester dans le
grainé.
Grainé.
Ça. La limonade Kevin Parent, elle a un petit quelque chose.
Est-ce qu'on a été trop dur envers Kevin Parent? Kevin Parent semble dire oui.
Ben, vois-tu, tantôt, on parlait de Logan Mailloux. L'approche de dire « c'est moi la victime », ça marche pour moi. Pour moi, c'est une fin de non-recevoir.
Mais au moins, ça part de la personne. Je trouve ça quand même assez transparent.
Ouais, mais... Tu sais...
Au moins, on sait à qui on a affaire.
Own your shit. Tu sais, on a tout fait de la merde. Puis il y a de la merde qui laisse des traces, il y a de la merde qui en laisse moins, mais own your shit. Quand quelqu'un revient et dit « Hey, quand t'as fait cette affaire-là, quand t'as fait cette shit-là, moi, ça m'a fait de quoi, puis je veux que tu t'excuses, je veux que tu te dénonces, puis ainsi de suite. » C'est à toi, porte-les. C'est peut-être bien pesant, c'est peut-être bien poche, mais c'est à toi de le porter. T'es une célébrité, t'es une personnalité connue, tu traînes d'un bar, tu fais rire tes amis, parce que, tu sais, le gars dit qu'il y a des mensonges qui ont été dits à mon égard, puis quand on lui demande de préciser, ben il dit « Bon, ben on a fait des jokes, puis tout ça, mais j'étais pas en position de pouvoir. » Ou c'est flou, on a l'impression qu'il les a grainés hiver, là, je veux dire, si on se parle pour se parler.
Il a même dit qu'il était la victime parfaite.
Ouais,
pour ce genre de dénonciation.
Ça m'agace beaucoup, ce bout-là. Own your shit.
Je suis d'accord avec toi, Denis. Ça devrait être la meilleure affaire, sauf que moi, quelqu'un d'hypocrite qui va honte ses shit, ouais. Ça sera pas sérieux. C'est là où je trouve ça un peu déplorable. Ouais, a... Mais un gars comme le dit humoriste qui essaie de revenir, puis qu'on voit que ses excuses n'ont pas toujours été sincères, moi, je me dis, ah, je sais à qui j'ai affaire.
Il y en a, qui peut, y en a pour qui ça peut faire. On a toute notre version de la patente. Mais dans le cas de Kevin Parent, il y a un point que je vais y donner, Pascal. C'est qu'il dit... Moi, j'ai arrêté de boire en 2015, puis après ça, je me suis assagi. Puis là, ça sort 5 ans plus tard, est-ce que je suis rendu ailleurs? Ouais. Ça doit être chiant. Mais c'est à toi pareil.
Puis oui, c'est à toi pareil. Puis c'est mélangé avec des agressions sexuelles sincères, mais en tout cas, du moins, des présumées agressions sexuelles sincères. C'était mélangé avec un paquet d'affaires. Puis dans ce mouvement-là, crime, il y avait beaucoup de choses. Puis grainer un verre, je ne dis pas que c'est intelligent. Moi, s'il avait grainé mon verre, je veux dire, il l'aurait bu au complet.
C'est sûr que, ironiquement, alors qu'on dénonçait beaucoup d'agressions sexuelles, tout ce qui était différent et qui sortait du lot, comme par exemple grainer un verre pour faire rire
devenait
les chums,
la chose sous le projecteur.
Ça devenait une joke du bye-bye, mais la vie est comme ça. Là.
Oui, j'ai entendu beaucoup de choses pour connaître des gens. C'est des palabres, je vous raconte des choses, mais il paraîtrait que Kevin Parent était dans la gang de graineurs, puis c'était pas mal le seul connu. Mais c'est une palabre.
La gang des graineurs?
Il y avait une gang de graineurs. Okay. C'était comme une tendance de grainage qui existait. Puis peut-être que c'est ça, cette petite victime parfaite.
Tu parles d'une drôle d'idée.
Moi, avoir été son fameux conseiller à Kevin Parent, j'aurais dit, tu sais quoi, tu veux accorder une entrevue sur ce sujet-là, tu ne te positionneras pas en victime. Tu vas dire qu'il y a eu des moments de ta vie où tu n'étais vraiment pas conscient.
Où tu as été une marde.
Que tu regrettes. Toutes les dénonciations qui ont été faites, il y avait possiblement du vrai là-dedans, puis tu t'excuses, puis tu as fait ton bout de chemin là-dedans.
S'il y a des choses précises qui n'étaient pas vraies, nomme-les. Laisse pas de flou. S'il y a des choses qui n'étaient pas vraies...
Mais qu'est-ce que ça vaut là-dedans? Parce que le monde va encore suspecter que c'est peut-être vrai.
J'ai jamais été accusé. Moi, j'aurais dit, mettons que ça m'arrive à moi, là, savez-vous quoi? J'ai appris de ça. Ça a été très difficile d'admettre que j'avais un problème. Il y a eu beaucoup d'alcool là-dedans. Je me suis aperçu que j'avais fait du mal à des gens. Ça fait déjà plusieurs années. Je m'excuse encore s'il y a des gens qui se considèrent comme victimes, mais dans la vie, il faut avancer. Puis là, ben, ce que je vais faire, c'est essayer de me rattraper.
C'est bon,
c'est tout simplement ça qu'il avait à dire. Pas se positionner en victime en disant « j'étais la victime parfaite, ça a été rough, il y a eu beaucoup de cruauté, de méchanceté dans mes affaires. » Écoute, si vraiment tu as mis ton pénis dans le verre d'une fille, puis tu y as fait boire, à mes yeux, à moi, t'es une merde.
Mais tu l'as mis dans la bouche, mais juste par intermédiaire.
C'est clairement un comportement de merde.
Tu sais, puis on se souvient tous de Kevin Parent qui fait une conférence de presse en disant qu'il était attaqué parce qu'il parlait en français. Puis que c'était un Québécois par des méchants Ontariens sur la Grande Allée.
Puis finalement, l'histoire a changé à un moment donné.
C'était une grosse conférence de presse. Mm-hmm. Là, la police était mêlée là-dedans. Puis finalement, quand on a vu les bonnes vidéos, on s'aperçoit que l'agresseur, c'était Kevin Parent qui avait botté une bûche sur la jambe d'une fille ontarienne. Puis que le gars, il a dit d'arrêter. Puis il a recommencé. Puis le gars, il a dit ben là, c'est fini pour toi à soir. Bonne soirée, pataf.
En état d'ébriété, il n'y a personne de brillant. Non. Own your shit. Exact. Excuse-toi. Porte-les. Passe pas pour la victime. T'es pas la victime. C'est pas relié, mais c'est-tu vrai que vendredi soir, t'as mis ton pénis dans le Gatorade de Stephen Sullivan?
Non, parce que Yannick va dire qu'il serait resté pogné dedans.
il rentrait pas dans la gourde.
C'est ça que tu checkais dans le vestiaire quand je prenais ma douche, Pascal.
C'est pas ce qu'on appelle un pigeon d'argile.
Bon, ben, je pense à conclure, les gars.
Bon.
C'était le pit stop, mesdames et messieurs.
Ouais. Il nous paye pour ça, des niaiseries.
C'était le pit stop.
Midi 33, merci, Denis.
Salut.
Salut, bye.